Chapitre 5, le fanatisme. La montée du fanatisme, nous vivons à une époque où le fanatisme se fraye un chemin parmi les croyants et les incroyants. Satan interviendra, et, dans son hypocrisie, il proféra des mensonges. Tout ce qui est de nature à tromper hommes et femmes sera mis en œuvre. Comment Satan agit, d'après notre expérience, nous nous sommes rendus compte que si Satan ne peut asservir les âmes par la froideur de l'indifférence, il tente de les pousser à l'ardeur du fanatisme. Quand l'Esprit du Seigneur se manifeste parmi son peuple, Satan saisit l'occasion d'agir sur différents esprits et de mêler leurs traits de caractère particuliers à l'œuvre de Dieu. Ainsi, il y a toujours un danger qu'ils mêlent à cette œuvre leur propre esprit, et que des décisions mal avisées soient prises. Nombreux sont ceux qui accomplissent une œuvre de leur propre cru qui ne vient pas de Dieu. Point déclaration similaire dans. Ceux qui cultivent de mauvaises tendances, il en est qui ne veulent rien entendre. Il y a si longtemps qu'ils ont choisi d'agir à leur guise et selon leur propre sagesse, si longtemps qu'ils ont cultivé leur mauvaise tendance héréditaire et acquise qu'ils sont aveugles et ne peuvent voir de loin. À cause d'eux, les principes sont faussés, des critères erronés sont érigés, des tests sont faits qui ne portent pas le sceau du ciel. Certains de ceux-là se glorifient dans le Seigneur d'être son peuple qui accomplit la justice et n'abandonne pas les préceptes de son Dieu. Dépourvus d'une saine attitude mentale, ceux qui sont pris dans les pièges de Satan n'ont pas encore acquis une saine attitude mentale. Ils sont en quelque sorte hébétés. Ils sont vaniteux, pleins d'eux-mêmes. Oh ! Avec quelle tristesse le Seigneur les considère et entend leurs paroles pleines de prétentions. Ils sont bouffis d'orgueil. L'ennemi est surpris de voir avec quelle facilité ils se sont laissés réduire à l'esclavage. Point. Fausse humilité, il y a beaucoup d'humilité factice et éphémère parmi les soi-disant chrétiens. Certains, décidés à dominer le moi, s'abaissent le plus possible. Mais ils essaient d'y arriver par leur propre force, et dès qu'ils sont l'objet d'une louange ou d'une flatterie, ils montent si haut qu'on finit par les perdre de vue. Ils ne sont pas disposés à se soumettre entièrement à Dieu, et il ne peut donc pas agir par leur intermédiaire. Ne vous glorifiez pas en quoi que ce soit. N'agissez pas avec un esprit partagé, en essayant de servir Dieu et le moi en même temps. Renoncez au moi. Que vos paroles conduisent ceux qui sont fatigués et chargés à Jésus, le Sauveur bienveillant. Agissez comme si vous voyiez celui qui est à votre main droite, prêt à vous donner la force pour servir. Votre seule sécurité consiste à vous appuyer entièrement sur le Christ. Sentiment illusoire, certaines personnes ne sont pas satisfaites d'une réunion si elles n'éprouvent pas un sentiment de puissance et de bonheur. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à un certain degré d'excitation. Mais l'influence de telles réunions n'est pas bienfaisante. Quand le sentiment de bien-être a disparu, on se trouve à un niveau moins élevé qu'avant la réunion, car ce bonheur ne vient pas de bonne source. Les réunions qui permettent le plus de progrès spirituel sont celles que caractérise la solennité, dans lesquelles on cherche de tout son cœur à se connaître soi-même et à se placer au pied du Maître dans un esprit de ferveur et de profonde humilité. Pratiques étranges, au moyen du fanatisme que nous avons récemment constaté en Californie, par des pratiques singulières et par le prétendu pouvoir de chasser les démons, Satan s'efforce de séduire les élus, si cela était possible. Ces personnes, qui affirment détenir un message spécial pour notre peuple, s'accusent mutuellement d'être possédées par l'esprit du mal. Puis, après avoir prié avec nos membres, elles disent que le démon a été chassé. Le fruit de leur œuvre a témoigné de sa valeur. J'ai été chargé de dire à notre peuple que ces pratiques étranges ne venaient pas du Seigneur, que de telles manifestations séduiraient les âmes pour leur propre ruine, à moins qu'elles n'en soient averties, et que la vérité biblique serait faussée. Agressivité naturelle, d'aucuns sont agressifs par nature. Peu leur importe de savoir s'ils sont en accord avec leurs frères ou non. Ils souhaitent engager la discussion, aimeraient combattre pour leurs idées particulières. Mais ils devraient y renoncer, car cela ne contribue pas au développement des vertus chrétiennes. Déployez tous vos efforts pour réaliser la prière du Christ, que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Aucun d'entre nous n'est en sécurité, s'il ne s'imprègne pas chaque jour de la douceur et de l'humilité du Christ. Dans votre travail, ne vous montrez ni autoritaire, ni sévère, ni agressif. Prenez l'amour du Christ, et les cœurs seront touchés et conquis. Cherchez à partager avec vos frères une même pensée, un même jugement et un même langage. En parlant de division parce que tous n'ont pas le même point de vue tel que vous le concevez actuellement, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, mais celle de l'ennemi. Parlez des principes de la vérité élémentaire sur laquelle vous pouvez tomber d'accord. Parlez d'unité. Ne soyez pas étroit d'esprit ni infatué de vous-même. Cultivez au contraire la largesse d'esprit. Suivre ses propres normes, très nombreux sont ceux qui se confient dans leur propre justice. Ils se fixent une norme pour eux-mêmes, ne se soumettent pas à la volonté du Christ et ne lui permettent pas de les revêtir de la robe de sa justice. Ils se forgent un caractère conforme à leur propre volonté et selon leur bon plaisir. Leur religion plaît à Satan. Ils dénaturent le caractère parfait et la justice du Christ. Ils se trompent eux-mêmes et trompent leurs semblables. Ils ne sont pas acceptés de Dieu. À cause d'eux, d'autres âmes s'engagent sur la fausse route. Ils recevront finalement leur rétribution avec le grand séducteur, Satan. Réaction d'un fanatique, un certain N, de Red Bluff, Californie, vint me délivrer un message. Il pensait que Dieu lui avait confié ce message en laissant de côté tous les frères dirigeants. J'essayais de lui montrer son erreur. Quand nous lui avons exposé nos raisons de le croire dans l'erreur, une grande force s'empara de lui, et il poussa un grand cri. Il nous a créé de grandes difficultés, et il fallut finalement le placer dans un asile d'aliénés, son esprit s'étant dérangé. Comment se comporter à l'égard des fanatiques? Dieu demande à ses serviteurs d'étudier sa pensée et sa volonté. Lorsque des hommes se présentent avec leurs théories étranges, n'engagez pas de discussion avec eux, mais affirmez ce que vous savez. Il est écrit doit être votre arme. Certains essaieront de faire grand cas de leurs fausses théories. Dieu merci, d'autres ont été enseignés par lui, et connaissent la vérité. Point. Veillons à nos expressions et à nos attitudes, nous vivons à une époque où il nous faut être très attentifs et veiller avec soin à la qualité de l'œuvre accomplie. Certains essaieront d'introduire des théories erronées et des messages fallacieux. Satan excitera les esprits de manière à susciter du fanatisme dans nos rangs. C'est ce que nous avons pu constater en 1908. Le Seigneur désire que son peuple agisse avec prudence, veillant sur ses expressions, et même sur ses attitudes. L'adversaire se servira des particularités des attitudes et de la voix afin de produire de l'exaltation et d'agir sur les esprits humains pour tromper. Point. Évitez les tests d'inspiration humaine, on verra des choses nouvelles et étranges qui inciteront continuellement le peuple de Dieu à donner libre cours à des excitations illusoires, à des réveils religieux, à des manifestations inattendues. Mais notre peuple ne devrait pas être soumis à des tests d'inspiration humaine qui susciteront des polémiques dans quelque domaine que ce soit. Prendre garde à la prétendue lumière nouvelle, merveilleuse, de pointe, mon âme est accablée, car je sais ce qui est devant nous. Ceux qui n'ont pas une communion quotidienne et vivante avec Dieu seront victimes de toutes sortes de tromperies. Les anges de Satan sont passés maîtres dans l'art de faire du mal, et ils feront briller ce que d'aucuns présenteront comme une lumière de pointe, en assurant que celle-ci est nouvelle et merveilleuse. Mais si ce message peut être véridique à certains égards, il sera mêlé d'inventions humaines et enseignera des commandements d'hommes. Aujourd'hui plus que jamais, le temps est venu où nous devons veiller et prier. Beaucoup de choses apparemment bonnes devront être examinées attentivement et accompagnées d'un esprit de prière, car il s'agit de manœuvres trompeuses de l'ennemi visant à engager les âmes dans une voie qui côtoie de si près celle de la vérité qu'on a de la peine à distinguer l'une de l'autre. Mais l'œil de la foi peut voir en quoi elles divergent, bien que de façon presque imperceptible. De prime abord, on peut croire que tout est bien. Mais on ne tardera pas à s'apercevoir que cette voie illusoire s'écarte nettement du chemin qui conduit à la sainteté et au ciel. Mes frères, je vous engage à marcher dans de droits sentiers, afin que ce qui est erroné ne vous fasse pas dévier. Le fanatisme est difficile à enrayer. Quand le fanatisme n'est pas réprimé dès le commencement, il devient aussi difficile de l'éteindre que de maîtriser un incendie dévorant un édifice. Ceux qui ont participé à ce fanatisme, la doctrine de la chair sanctifiée, feraient mieux de se livrer à un travail séculier, car leur conduite inconséquente déshonore le Seigneur et met en péril son peuple. De tels mouvements se multiplieront en ce temps-ci, alors que l'œuvre du Seigneur devrait rester noble, pure, sans mélange impur de superstition et de fable. Soyons sur nos gardes, demeurons en étroite communion avec le Christ pour éviter les artifices de Satan. Des théories subtiles, Satan use de multiples moyens pour que les hommes qui devraient prêcher le message s'intéressent à des théories subtiles qu'il fera paraître comme étant revêtues d'un tel poids et d'une telle importance qu'elles absorberont l'esprit tout entier. Et tandis que ces hommes s'imagineront faire de grands progrès dans l'expérience chrétienne, ils ne feront que s'enthousiasmer pour quelques idées. Cela ne fera que nuire à leur influence et témoignera faiblement pour la cause du Seigneur. Que chaque prédicateur fasse tous ses efforts pour savoir quelle est la pensée du Christ. Certains citent des extraits de la parole de Dieu et des témoignages, en détachent des paragraphes ou des phrases susceptibles d'être interprétées de manière à confirmer leur opinion, et bien que n'étant pas dirigés par Dieu, ils mettent l'accent sur ces passages pour justifier leur point de vue. Or, tout cela plaît à l'ennemi. Nous ne devrions pas emprunter une voie qui mène au désaccord ou à des polémiques, ni donner l'impression que si nos opinions particulières ne sont pas adoptées, c'est parce que les prédicateurs ne sont pas capables de comprendre. Les enseignements du Christ abondent en sujets sur lesquels vous pouvez parler. Quant au mystère que ni vous ni vos auditeurs ne peuvent comprendre et expliquer, mieux vaut ne pas en parler. Laissez au Seigneur Jésus-Christ lui-même le soin d'enseigner. Que par l'influence de son esprit, il ouvre l'intelligence à la compréhension du merveilleux plan du salut. Ne pas s'absentir sur le côté négatif des choses, conseil adressé à un pasteur, si vous pouviez vous rendre compte de ce qui résulte du fait de s'arrêter constamment sur le côté négatif des choses comme vous l'avez fait plus ou moins pendant des années, vous comprendriez mieux les paroles du Sauveur contenues dans le chapitre 18 de Matthieu. Les disciples avaient posé la question à Jésus, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mon frère, repoussez toute mauvaise pensée. Humiliez votre cœur devant Dieu. Alors, vos yeux s'ouvriront, et vous ne vous arrêterez plus au côté négatif des choses. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Éliminez vos mauvais traits de caractère, si douloureux que cela soit pour votre nature humaine. Et si ton œil, si perçant quand il s'agit de voir quelque chose à critiquer ou à contester, est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. La foi triomphe du négativisme, nous aurons du succès si nous allons de l'avant avec foi, décidés à accomplir intelligemment l'œuvre du Seigneur. Ne nous laissons pas freiner par des hommes qui se complaisent dans le côté négatif des choses, et qui font preuve de peu de foi. L'œuvre missionnaire de Dieu doit être poursuivie par des hommes qui ont beaucoup de foi, et cette œuvre doit croître en force et en efficacité. Point. Danger de l'esprit d'indépendance. Il y a toujours eu dans l'Église des membres portés à agir avec un esprit d'indépendance. Ils semblent incapables de comprendre que celui-ci conduit souvent l'homme à avoir une trop grande confiance en lui-même, à se fier à son propre jugement plutôt qu'à celui de ses frères et, en particulier, de ceux que Dieu a appelés pour remplir une tâche importante. Le Seigneur a investi son Église d'une autorité particulière, que personne n'a le droit de déprécier, car serait déprécier la voix de Dieu. La paix dans la douceur et l'humilité, l'âme trouve le repos uniquement en cultivant la douceur et l'humilité de cœur. La paix du Christ ne saurait être trouvée là où règne l'égoïsme. L'âme ne peut croître en grâce lorsqu'elle est orgueilleuse et centrée sur le moi. Le Christ a assumé la position que l'homme doit adopter pour que la paix du Sauveur habite dans son cœur. Ceux qui se sont consacrés à lui pour devenir ses disciples doivent renoncer chaque jour à leur moi, se charger de sa croix et suivre ses traces. Ils doivent aller là où son exemple indique le chemin. Courtoisie chrétienne, bien que ferme comme un roc à l'égard des principes, Paul restait toujours courtois. Il était profondément attaché aux principes essentiels, sans négliger pour autant l'amabilité et la courtoisie qui conviennent à la vie en société. Chez lui, l'homme de Dieu n'absorbait pas l'homme proprement humain. Certaines personnes parlent avec dureté, d'une manière peu courtoise qui blesse leurs semblables. Puis elles se justifient en disant « Je suis comme ça, je dis toujours franchement ce que je pense », et elles présentent ce mauvais trait de caractère comme s'il s'agissait d'une qualité. Ce manque d'égard pour autrui doit être sévèrement réprimandé. L'auteur confronté à tous les aspects du fanatisme, en 1844, « Nous avons été confrontés de toutes parts au fanatisme, mais la parole qui me fut adressée fut toujours la même, une grande vague d'excitation fait du tort à l'œuvre. Continue à marcher sur les traces du Christ. Je reçus un message destiné à affronter chaque phase du fanatisme. J'ai reçu instruction pour dire au peuple que sous la pression d'une vague d'excitation, une œuvre étrange s'accomplit. D'aucuns saisissent cette occasion pour introduire des superstitions, ce qui fait obstacle à la propagation de la saine doctrine. Un danger imminent, à mesure que la fin approche, l'ennemi travaille de toutes ses forces pour introduire parmi nous le fanatisme. Il se réjouirait de voir les adventistes du septième jour tomber dans de tels extrêmes que le monde les flétrirait du nom de fanatiques. J'ai reçu l'ordre de prévenir les prédicateurs et les membres d'église de ce danger. Notre mission, c'est d'enseigner à des hommes et à des femmes à bâtir sur un solide fondement, à s'appuyer sur cette parole, ainsi parle l'Éternel. Une forme particulière de fanatisme, je me suis exprimé clairement au sujet de la science dangereuse selon laquelle une personne soumet son esprit au pouvoir d'une autre. Cette science est proprement démoniaque. Tel est le type de fanatisme auquel nous avons eu affaire en 1845. À cette époque, je n'en mesurais pas la portée, mais je fus chargé d'apporter un témoignage catégorique contre ce genre de manifestation. Cultiver l'objectivité et l'optimisme, nous n'avons aucune raison de fixer nos yeux sur l'erreur, de nous lamenter et de nous plaindre, perdant ainsi un temps précieux à déplorer les fautes des autres. Ne plairait-il pas davantage à Dieu que nous regardions les choses avec impartialité, reconnaissant combien nombreux sont ceux qui le servent, résistent à la tentation, le glorifient et l'honorent avec leurs talents, leurs moyens et leur intelligence? Ne vaudrait-il pas mieux considérer le pouvoir merveilleux et prodigieux du Très-Haut qui transforme de pauvres pécheurs déchus, hier encore profondément pervertis, mais aujourd'hui régénérés au point que leur caractère ressemble à celui du Christ ?